Ne pas se laisser posséder par ses richesses, un trop-plein d'argent, rester un homme libre, une femme libre. Je vous propose de revenir, si vous le voulez bien, je vous salue et merci Marco Dindal, de revenir un peu sur cet aspect aussi de l'argent, des richesses, et peut-être pourrions-nous revenir aussi sur ces quatre vertus cardinales, justice, force, tempérance, prudence, et prudence peut-être dans nos choix, ne pas subir nos choix, mais être des hommes et des femmes libres pour faire les bons choix et éviter peut-être trop de compromis et rester cohérent avec soi-même. Donc quel est un peu votre propre expérience pour rester toujours sur ce chemin aussi de cohérence avec votre vie active de professionnel, de financier.
Alors en fait, c'est assez facile à nouveau. Une fois que vous êtes vraiment imprégné par la vertu de justice, c'est-à-dire que vous savez à peu près discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est quand même entre nous pas très difficile, et que vous avez le courage d'assumer le fait de ne pas faire des choses injustes, et que vous avez, alors ça c'est plus difficile la tempérance, que vous avez la modestie et l'humilité de pas vous imposer trop dans ses choix, ça c'est le plus difficile je pense, et que vous avez la prudence qui reste, la prudence c'est vraiment le discernement, et donc là il faut prier. Voilà. Je pense que la prière est très importante dans les choix importants pour vous aider à choisir le bon moment, la bonne décision, dans la bonne configuration. Et moi j'ai eu de la chance parce que j'ai fait des choix qui étaient, je pense, souvent pas mauvais, à la fois personnel et professionnel. Mais encore une fois, cette grille de lecture est assez facile. Quand je suis devenu banquier, nous avions un président de la Banque Morgan, où j'ai commencé aux États-Unis, qui nous avait reçus. On était une quarantaine de jeunes cadres. Il nous avait dit, voilà, vous avez le droit dans votre carrière de faire des erreurs de jugement, mais vous n'avez pas le droit de faire des erreurs de principe. Et ça, je pense que c'est important, parce que quand vous choisissez, vous faites forcément des erreurs, mais quand vous faites une erreur de principe, vous le savez, et ça, c'est pas pardonnable, parce que ça vous entraîne au mensonge, ça vous entraîne au compromis, ça vous entraîne, en fait, à terme, à être malhonnête. Et donc, en finance, comme dans tous les métiers, vous êtes appelé parfois, parce que l'entreprise, parce que la banque, parce que l'État, parce que la collectivité pour laquelle vous travaillez, commet des erreurs de principe. Je crois que personne, aucune organisation n'est à l'abri, y compris l'Église catholique, d'ailleurs, parce que ce sont des hommes qui prennent des décisions et que parfois des hommes flanchent, tombent, pêchent. Et donc il faut être capable de résister, même si ça vous fait prendre des risques. Voilà. Et donc, je vous racontais tout à l'heure, hors émission, qu'en 20 ans de carrière, j'avais dit monsieur 6 fois. C'était quand même très souvent pour des raisons de principe et pas pour des raisons financières. Alors, il se trouve que le résultat était bon quand même. J'ai vraiment démissionné pour des raisons de principe à plusieurs reprises.
Ça demande du courage.
Non, ça demande surtout de la préparation, c'est-à-dire qu'il faut.
Alors
avoir
vous revenez souvent sur cette préparation pour tout d'ailleurs. Donc c'est la sagesse là qui parle.
Non, mais c'est vrai.
On pense, on prépare avant de poser. Oui. Donc c'est la décision.
Quand vous voulez être libre et que vous voulez être capable de changer de job si on vous demande un truc qui vous plaît pas, c'est plus prudent d'avoir quand même un parachute quelque part. Donc ça, ça fait partie.
Donc c'est penser, c'est réfléchir.
Oui, c'est penser, c'est réfléchir et c'est être capable. Si vous ne vous ménagez pas des routes alternatives, vous êtes coincé. Et alors là, effectivement, vous faites des choix radicaux.
Alors, on se dit, et puis je pense aux auditeurs hein, qui écoutent un peu ce parcours, cette parole d'un financier, comment rester finalement propre, hein, sans mensonge, quand on brasse aussi des milliards, hein, rester clean, sans tomber dans ce compromis.
Moi, je peux vous donner un exemple. J'étais jeune banquier et j'étais en train de faire une très grosse affaire pour une entreprise française. Bon. Et un groupe de mes collègues qui étaient à Londres, j'entre pas dans les détails parce que c'est trop compliqué techniquement, mais a essayé de profiter de l'affaire que nous étions en train de faire pour à un prix qui n'était pas de marché, qui n'était pas honnête, de gagner des sommes indues sur mon client. Bon, et donc j'ai dit à mon client que je refusais que cette opération se fasse de cette... Je l'ai mis au courant et je lui ai dit que c'était inacceptable. Et donc, et le client et moi avons, contre l'état-major de la banque, décidé que c'était inacceptable. Et donc le client a eu ce qu'il devait avoir. Et voilà, et donc après nous avons eu des briefings au niveau de la banque. Et sincèrement, je m'attendais à ce que mes petits camarades de Londres soient mis à la porte, vous voyez. Et au contraire, on m'a expliqué que, en fait, j'avais pas travaillé dans les intérêts de la banque. Et je leur ai expliqué que moi, je travaillais dans l'intérêt du client. C'est comme ça que j'avais été formé, y compris par la banque elle-même. Et donc j'ai démissionné. Voilà. Mais j'avais un parachute depuis 3 mois, mais c'est pas pour ça que j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que j'ai toujours des parachutes, mais j'ai démissionné parce que j'ai estimé que c'est inacceptable. Et j'ai gardé mon client, bien sûr, qui est venu avec moi dans ma nouvelle banque.
Qu'est-ce qui fait finalement un bon banquier ?
Alors mon banquier, je vais vous dire.
Comment choisir finalement ? Là, c'est très concret pour les auditeurs.
C'est celui qui s'occupe.
Comment est-il le profil ?
Oui, c'est celui qui s'occupe a priori de vos intérêts et qui vous aime. Il faut aimer son client.
Donc on parle d'amour quand on parle de banquier, ouais. Comment on peut
il faut aimer son client, c'est-à-dire vouloir le bien de son client. Et donc comme vous l'aimez, ça veut dire que vous avez une relation de confiance qui s'établit et donc il va vous dire quelles sont ses problématiques. Et donc si vous n'êtes pas trop sot, vous allez être capable de trouver des idées pour résoudre ses problèmes avant même qu'il ait réfléchi à vous poser la question sur une solution. Et donc vous allez proactivement venir l'aider alors même qu'il ne savait pas vraiment qu'il avait un problème. Et donc, vous allez vraiment être pour lui un support important. Et ça, c'est un bon banquier. Et un mauvais banquier, c'est un banquier qui vend des solutions toutes faites que sa banque lui a dit de vendre auprès de clients qui n'ont pas forcément besoin de ses produits. Et donc, j'en viens toujours qu'il faut aimer son client. Et quand vous parlez avec des bons patrons et des bons chefs d'entreprise, qu'ils soient dans la distribution, qu'ils soient dans l'hôtellerie, qu'ils soient dans la vente d'avions, il faut aimer son client. Et si vous n'aimez pas votre client, et ben vous n'aurez pas les bonnes idées
donc,
pour l'aider
part,
au maximum.
Ce bon banquier avec ce bon profil que vous décrivez, Marco Dindal, il se fait serviteur au service de son client ?
Oui, et puis au service de... Alors après, on devient technique. Et donc, on devient aussi au service de développement de produits, de solutions intelligentes. Et là, ça devient très amusant. C'est-à-dire que vous êtes créateur de solutions techniques pour des problèmes qui n'avaient pas de solution.
Vous avez
avant.
Un exemple concret que vous gardez
j'en ai
votre
mille.
Vie
non, j'en
oui.
ai mille. J'en
un
mille.
Très concret pour les auditeurs qui vous écoutent.
Bah, par exemple, oui, je vous donne un exemple tout bête, mais qui était vraiment un exemple étonnant. Quand nous avons commencé à réfléchir à la privatisation de France Télécom, le problème le plus important pour France Télécom et pour l'État français, c'était comment préparer les retraites des fonctionnaires qui étaient employés et quelle était cette somme. Alors le Trésor français n'avait pas fait l'effort de calculer la somme, donc proactivement j'ai demandé à un actuaire de calculer cette somme, et donc j'étais monté au Trésor français, qu'à l'époque c'était de mémoire quelque chose comme 40 milliards de francs. Bon. Donc déjà le Trésor a vu qu'il y avait une somme importante, et la deuxième étape c'était comment fait-on pour prévoir cette provision pour ces 40 milliards d'euros, de francs. Et il y avait deux façons de faire au moment de l'introduction en bourse, soit l'État français vendait plus d'actions de France Télécom et prenait 40 milliards des résultats de cette vente pour mettre une provision, soit France Télécom, au moment de l'introduction en bourse, faisait une augmentation de capital de 40 milliards et prenait cette provision pour elle-même le mettre. Voilà. Et croyez-le ou non, mais ces deux solutions n'avaient pas le même impact sur les déficits français pour respecter les 3% de Maastricht. Une solution permettait cette année-là à l'État français de garder les 3% et l'autre ne le permettait pas. Et ça a permis à l'État français cette année de ne pas être en déficit sur ces 3%. Et ça, c'est une solution purement technique. L'État français était très content et l'a utilisé plusieurs fois après.
Très bien, on termine alors sur ce bon produit avec vous pour aujourd'hui. Et on vous retrouve demain à la même heure, Marco Dindal.
À demain.
Merci.